Aujourd'hui, la masterclass de Jean-Christophe Ruffin avec Manu Farine.
Donc, la masterclass de Jean-Christophe Ruffin. J'en rappelle brièvement le principe, examiner au plus près la fabrique de l'œuvre, d'une œuvre, de la première image, éventuellement, la première phrase, le premier canevas, à son achèvement possible ou pas. Quelque chose comme, au fond, la mise à jour du processus d'écriture. Alors, c'est pas si simple quand on se penche sur la vôtre, Jean-Christophe Ruffin. Il y a des romans, des nouvelles, des carnets, des récits, des témoignages, des registres nombreux, des genres nombreux aussi. Vous qui, en une quinzaine de fictions, disons à peu près, avez, selon la stratégie assumée du coucou, occupé tous les genres, ou presque. Le roman historique, avec l'Abyssin notamment, ça c'est pour le tout premier, en 1997. Au Rouge Brésil, prix Goncourt en 2001. Le roman d'anticipation, ça c'est pour Globalia en 2004. Le roman d'amour, ou en tout cas du sentiment amoureux, avec La Salamandre en 2005. L'autobiographie, avec Le Léopard sur le Garrot en 2008. Le polar, disons, vert, avec Le Parfum d'Adam en 2007. Le roman d'espionnage avec Katiba en 2010. Le roman biographique historique avec Le Grand Cœur. Et puis le tout récent Tour du Monde du roi Zibeline, le récit ou la fantaisie littéraire, je ne sais pas trop comment l'appeler, avec Immortelle Randonnée, qui revenait sur votre Compostelle, à vous, en 2013, et puis même le roman humanitaire avec Checkpoint en 2015. Alors évidemment, je schématise, ça va un petit peu vite, mais avant de donner quelques éléments de votre parcours, qu'est-ce qu'une telle stratégie ? Alors, on ne va pas forcément l'appeler la stratégie du coucou, mais en tout cas, un tel goût du genre et de sa variation pourrait dire, au fond, de votre écriture ou même de ce qui vous fait écrire, Jean-Christophe Ruffin.
Je crois qu'en réalité, la notion de genre m'est complètement étrangère. C'est-à-dire que j'écris des histoires qui me parlent, que j'ai envie de raconter. L'histoire vient d'abord, les personnages ensuite, et puis le genre en dernier, souvent quand le livre est terminé. Par exemple, la notion de roman historique, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment comprise. Je ne sais pas, le temps du récit, c'est la plupart du temps le passé. Donc je n'ai jamais compris à partir de combien de temps on était dans le roman historique. C'est-à-dire, si je raconte ce que j'ai fait il y a 10 ans, si j'ai fait ce qui s'est passé il y a 100 ans, je comprends pas très bien quand ça commence. Je me suis vraiment pas posé ces questions-là et il y a vraiment pas de stratégie. Voilà, je pense que c'est lié, s'il y a un point commun à tout ça, c'est une volonté de dissimulation, j'allais dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire des livres, et en particulier des romans, c'était en ayant un tout autre métier, une toute autre carrière, et avec une sorte d'interdit qui pesait sur moi, qui était, pour faire bref, le serment d'Hippocrate. J'ai juré, quand j'ai terminé mes études, que je pourrais tout voir, qu'on m'en fera. Les patients vous font pénétrer dans leur vie, dans leur maison.
Pardon, pour ceux qui ne le sauraient encore pas, vous êtes médecin.
Je suis médecin, voilà. Je suis médecin. Et du coup, le serment d'Hippocrate, c'est quelque chose de très lourd, dans la mesure où quand il s'agit après d'écrire et de puiser dans ses souvenirs, il y a un interdit. C'est-à-dire que je ne peux pas raconter directement des choses que j'ai vues ou vécues, sauf Compostelle, parce que là, je me moquais de moi-même et c'était pas grave, mais il y a un interdit concernant, disons, le portrait, par exemple, qui serait reconnaissable de quelqu'un, etc. C'est impossible pour moi. Donc, j'ai cherché très tôt à décaler le propos et à me situer dans des univers qui étaient des univers un peu différents par le temps, essentiellement, d'ailleurs, au départ. C'est-à-dire qu'en les situant dans un passé lointain, je pouvais raconter des choses qui, pour moi, étaient présentes, mais qui étaient, d'une certaine manière, méconnaissables, mises à distance.
Voilà. Vous parliez de votre difficulté à reconnaître le genre du roman historique, Jean-Christophe Ruffin. Pour autant, vous avez un goût particulier pour le 18e. Donc là, j'imagine qu'on peut reconnaître, en tout cas, le temps historique, sans aucun doute. On croise notamment Rousseau, d'Alembert, Diderot, dans votre dernier roman. Qu'est-ce que ce siècle-là, précisément, alors vous aurez fait ? Est-ce que c'est celui qui vous fait poser et reposer le mieux la question de l'universalisme dans l'écriture et au fond comme dans la vie que vous avez menée jusqu'ici, puisque vous venez vous-même d'évoquer, on va en reparler bien sûr, mais aussi votre vie de médecin ?
Je ne sais pas si j'ai un goût particulier pour le 18e siècle. Ce qui est certain, c'est que là, dans ce dernier livre, l'aborde.
Le tour du monde du roi Zibeline.
Voilà, l'aborde de façon frontale parce que c'est. Bah parce que ce personnage, qui est un personnage réel, a vécu dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française. Donc, dans une période que je trouvais très passionnante, c'est-à-dire une période dans laquelle le bouillonnement des idées était déjà extrêmement marqué et fécond, mais où les conséquences politiques, et notamment, évidemment, la Révolution, n'avait pas encore eu lieu. Donc, et comme c'est un personnage qui projette ses idées très loin, puisqu'il s'en nourrit, mais il va les projeter dans un espace, par le hasard un peu de sa vie, qui n'est pas un espace français, qui n'est même pas un espace européen, puisqu'il va se retrouver depuis la Sibérie jusqu'en Chine, etc., et à Madagascar. Je trouvais intéressant ce télescopage de phénomènes qu'on associe en général à la France, de ces philosophes des Lumières, leurs livres, etc., de mettre en relation ces idées très tôt, très très tôt, c'est-à-dire juste avant qu'elles ne prennent une forme politique en France, et de regarder quels effets elles ont pu porter dans d'autres pays.
Alors pardon de... Après, on en finit avec cette question du genre, hein, mais pardon d'y revenir, Jean-Christophe Ruffin. Donc si on prend l'exemple justement de ce dernier roman, hein, Le tour du monde du roi Zibeline, c'est un roman, pardon, historique et biographique, qui emprunte aussi d'une certaine façon sa structure un peu aux mille et une nuits, hein, ce serait une sorte de Sindbad le marin raconté à deux voix, et qui se met donc dans les pas de ce comte Auguste Benjovski, qui va se retrouver donc finalement roi de Madagascar. Dans ce cas-là, c'est le choix du genre qui vous met à la table d'écriture, ou est-ce que c'est le sujet qui va l'imposer ?
Non, c'est vraiment le sujet. C'est le sujet, et c'est un personnage que j'ai connu, que j'ai rencontré, enfin, si je puis dire, en tout cas, dont j'ai connu l'existence un peu par hasard, en Pologne, en fait. Ce sont des éditeurs franco-polonais, Vera Michelski et son mari, Jan, qui est décédé peu de temps après, d'ailleurs, qui publiait les mémoires de Benjovski à ce moment-là, qui me l'ont fait lire. Donc j'ai fait la connaissance de ce personnage à ce moment-là, ça fait près de 20 ans. Et puis j'avais toujours eu envie d'écrire sur lui, mais il y a des choses qui me retenaient. Je trouvais, c'est d'abord, il a écrit ses mémoires, ce qui est compliqué, parce que ne pas paraphraser ses mémoires, c'était la première chose. Et deuxièmement, c'était de se décaler justement d'un récit linéaire, parce que la suite de ses aventures est un peu fastidieuse. Je voulais pas du tout être entraîné dans une espèce de succession comme ça. Ils sont allés là, puis ils sont allés là, puis ils sont allés là. Ça m'intéressait pas. Et je voulais trouver une forme qui me permette de restituer non seulement leur vie et les péripéties de leur vie, mais leur voix, je dirais, et leur voix sous la forme qui est très liée au XVIIIe siècle là pour le coup, de la conversation, c'est-à-dire de deux voix qui, en part égale, décrivent les mêmes phénomènes, mais avec des sensibilités différentes, avec une perception différente, avec un projet différent dans la vie, et que la construction de ces deux voies, permettent effectivement de reconstituer leur parcours, mais d'une façon plus intime. C'est pas les événements qui m'intéressaient, c'était eux à travers ces événements.
Alors on reviendra évidemment sur cet invariant, hein, celui du conteur Jean-Christophe Ruffin, qui regarde, qui habite le monde. Quelques éléments de parcours qui en disent long sans doute sur cette constante. Né à Bourges, médecin, neurologue, petit-fils de médecin, grand-père qui vous élèvera d'ailleurs, hein, en partie, médecin humanitaire, hein, qui vous mènera sur tous les fronts ou presque, médecin sans frontières, la présidence d'Action contre la faim, diplomate au Brésil, au Sénégal, essayiste, écrivain, nouvellement éditeur, hein, puisque vous avez repris la collection Terre humaine. Je pourrais encore ajouter motard, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et alpiniste, sans doute. Mille vies qui, dites-vous, n'en font qu'une. La question vous est inlassablement posée, donc je vous la repose encore. Le centre du foyer, l'identité, est-ce qu'elle est toujours médicale? Est-ce que vous êtes encore un médecin qui écrit?
Oui, tout à fait. Mais ça, je me définis toujours comme ça. Si vous voulez, pour moi, la médecine, c'est un socle de formation. On peut faire plusieurs métiers dans sa vie, mais on n'a qu'une seule formation. Je dis formation, vraiment, formation intellectuelle, formation, la relation au monde qu'on crée à 20 ans, il n'y en a qu'une, à mes yeux. En tout cas, surtout quand on a choisi un métier qui est aussi particulier que la médecine et qui tisse dans la relation à l'autre quelque chose d'extrêmement fort et je dirais même cru, puisqu'il s'agit non pas seulement de connaître l'autre, mais d'une certaine manière d'être mis en relation avec ses souffrances, avec ses angoisses, avec sa mort, enfin voilà. Donc tout ça, c'est une vraie formation et c'est une vraie identité pour moi. L'écriture n'en est pas une. C'est-à-dire que jamais je ne dirais que je suis écrivain. Jamais. D'abord parce que je considère que c'est un titre qu'on a. Bon, il peut être décerné par certains qui s'arrogent la possibilité de dire celui-là c'est un écrivain.
Par l'Académie française, par exemple.
Non. Je pensais plutôt. Il y a des milieux qui disent c'est un écrivain, ça c'est pas un écrivain, etc. Je pense que fondamentalement, pour savoir si on en est un, il faut être mort. Je ne suis pas pressé, particulièrement, si vous voulez. Donc, j'attends. Et en l'occurrence, mon activité, c'est effectivement d'écrire. Alors, quel est le résultat de ça? J'en sais rien. Mais très fondamentalement pour moi, ça a été d'abord une activité secrète. C'est une activité nocturne. C'est une activité... Je n'ai pas de loisir, parce que j'y consacrais plus que ça, mais qui n'a jamais, pour moi... prétendu au départ, en tout cas, devenir un métier. Bon, il se trouve que par la force des choses et l'âge aussi, et puis ces 15 livres dont vous avez parlé, j'ai fini par devenir un professionnel de l'écriture. Mais je m'en défends, et j'essaie de conserver un rapport étroit avec la vie. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion, y compris quand c'était... un peu dangereux ou difficile, par exemple en acceptant des fonctions diplomatiques lourdes. Mais chaque fois que ça m'a été possible, j'ai gardé une relation forte avec l'expérience de la vie qui, pour moi, est indispensable pour écrire.
Est-ce qu'il y a toujours une part secrète dans l'écriture chez vous? Est-ce qu'il y a dans vos tiroirs des textes, des manuscrits, des choses que vous ne sortez pas, que vous ne publiez pas, qui veulent rester secrètes?
Quand j'ai commencé à écrire, bon, je n'osais pas, en tant que médecin, avec ce complexe un peu du technicien, si vous voulez, que j'avais. J'avais envie, en effet, d'écrire, mais je ne savais pas par quel bout prendre cette question. Donc j'ai commencé à écrire des choses assez techniques sur ce que j'avais vu, sur l'humanitaire, sur les questions nord-sud, les questions de développement, etc. Donc j'ai écrit des essais. Je me suis rendu compte que ces essais, quand ils étaient lus par mes étudiants, je faisais un séminaire à Sciences Po, et qu'ils avaient la gentillesse redoutable de faire un exposé sur mes livres, ça devenait deux parties, deux sous-parties, où il y a le tableau, un squelette, quoi. Et moi, je me disais, c'est pas ça que j'ai voulu mettre là-dedans, j'ai voulu mettre de la chair n'y est plus. Au fond, il n'y a qu'un genre, pas genre, parce que vous allez encore me sauter dessus avec ça, mais il n'y a qu'une forme littéraire qui puisse me donner la possibilité d'exprimer ce que je veux mettre dans ces livres, c'est le roman. Et alors, providentiellement, j'ai eu la possibilité de partir... parce que j'avais été conseiller auprès d'un de mes amis qui était ancien président de Médecins Sans Frontières, qui était devenu secrétaire d'État aux droits de l'homme, Claude Maluret. J'avais été à son cabinet. Je faisais pas grand-chose, à vrai dire, mais pour me récompenser, on m'avait dit « Tu peux partir, si tu veux, voilà, avoir une expérience, la coopération et tout ça ». Donc j'avais dû partir, normalement, j'aurais dû partir au Kenya. L'ambassadeur n'a pas voulu parce que j'étais médecin, et surtout psychiatre. Et donc, on m'a récusé et j'ai choisi ce qui restait. C'était tout petit dans la hiérarchie diplomatique, si vous voulez, qui était vraiment tout en bas, qui était celui d'attaché culturel et de coopération à Recife, au Brésil. Et je me suis donc retrouvé au Brésil. Et là, je me suis dit... Alors là, je suis tombé dans un poste absolument en ruine, quoi, où je n'avais vraiment, 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 là, pour le coup, rien à faire. Et je me suis dit, puisque tu n'as rien à faire, fais-le à fond. C'est-à-dire... Et c'est le moment de se mettre à écrire. Donc j'ai écrit là un premier roman, et comme les éditeurs sont charitables, ils me l'ont refusé systématiquement, et c'est le seul qui reste dans mes tiroirs et qui restera toujours. Et j'ai interdit absolument à quiconque de publier ce texte. Mais il a eu un mérite, c'est que je l'ai envoyé par la poste, ne connaissant personne dans les milieux de l'édition. Il a été consciencieusement et providentiellement refusé, mais... Tous les éditeurs auxquels j'avais envoyé m'ont téléphoné en me disant c'est vraiment très bien, mais ça va pas du tout. Vous voyez, c'est-à-dire, je dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse était toujours mais il y a rien à faire avec ce livre-là, mais il y en a peut-être, vous devriez peut-être en faire un autre. Voilà. Et ça a été le début. Et après, tous les autres ont été publiés. Donc je n'ai rien dans mes tiroirs.
Alors pourtant, au moment de Globalia, je crois en 2004, hein, qui était une sorte de portrait un peu cauchemar d'une ville radieuse où tout était permis, au fond, sauf l'aventure, vous disiez avoir fait vos classes avec les romans précédents. Vous n'en aviez pas écrit beaucoup encore à ce moment-là. Des romans dont la technique, dites-vous, n'était pas tout à fait assurée. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez les reprendre, ces romans-là? Est-ce que parfois il vous est arrivé d'avoir envie de corriger ou de reprendre des premiers romans? Ou les premiers romans, en tout cas, et qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une technique de roman pas tout à fait assurée, Jean-Christophe Ruffin?
Je ne sais pas où vous avez trouvé cette phrase. Elle est probablement fondée...
Elle est ancienne.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'elle représente quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se relit, quand je me relis, ce qui m'arrive rarement, sauf quand je suis obligé pour une lecture ou quelque chose, une traduction ou autre, quand je me relis, j'ai le sentiment, effectivement, que j'aurais pu peut-être faire les choses autrement. Mais c'est pas un exercice auquel je me livre d'habitude, parce que je suis totalement hostile, pour moi-même en tout cas, à la rumination. C'est-à-dire que je ne reviens pas en arrière, je ne remâche pas. Si quelque chose bloque, je passe à autre chose. Je creuse pas comme ça, et surtout pas dans le passé. Et ce qui est, si vous voulez, à un moment donné, c'est très compliqué, je trouve, d'arriver à se détacher d'un livre. Mais une fois que c'est fait, moi, je n'y reviens pas. Même si, en effet, je pourrais leur trouver des défauts. Mais Globalia, enfin, c'est pas exactement, si vous permettez, c'était pas comme ça. C'est pas par opposition au livre précédent que je l'ai écrit. C'était parce que je l'ai écrit après avoir eu le Goncourt, d'ailleurs. Ce qui produit toujours ces grands prix comme ça produisent toujours un effet un peu particulier de déstabilisation. Bon, moi je crois pas ce que certains ont prétendu, que les Goncourt les avaient détruits, etc. Bon, les grands blessés du Goncourt, je connais pas. Mais en ce qui me concerne, si vous voulez, c'est vrai que comme beaucoup, redémarrer après ces grands prix, c'est compliqué. Ça demande une petite adaptation parce que on a tendance à vouloir se recopier ou continuer dans la même lignée, etc. Bon. Et moi, providentiellement, pour ce livre-là, j'avais été invité dans un salon du livre en Guadeloupe qui était consacré à la science-fiction. Et moi, je présentais à ce moment-là des livres qui étaient tous, ce que vous appelleriez, Manu, des romans historiques, c'est-à-dire qui se passaient tous au XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Voilà. Et donc, je n'avais rien à faire là. Voilà. Si ce n'est que je ressemblais, paraît-il, à un cosmonaute qui était présent. Et donc, les rares personnes qui venaient me voir étaient en fait intéressées par le cosmonaute. Alors, je disais, non, c'est cosmonaute, c'est derrière. Donc, j'ai passé 8 jours un peu pénibles, à vrai dire. Mais il y a eu un profit, une sorte d'effet collatéral, comme diraient les militaires, c'est que j'ai rencontré là-bas des écrivains d'anticipation, des écrivains de science-fiction, qui vivent dans un monde tout à fait à part. Alors là, pour le coup, c'est un genre très identifié et assez maltraité, assez mal considéré, donc ils sont entre eux. Mais il y a une grande école, on pourrait dire, de la science-fiction française, des gens comme Pierre Bordage, etc. Et avec des personnes, des auteurs que je trouve assez fascinants, parce que d'abord, ils ont souvent des vies extrêmement rangées, mais ils se réveillent le matin, et puis voilà, ils prennent leur petit déjeuner, 8 heures... Et ils montent dans leur soucoupe volante. Voilà. Jusqu'à midi, et à midi, ils posent le stylo, ils vont déjeuner. C'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'après, en rentrant, je suis tombé sur une préface de Walter Scott. Comme beaucoup des éditions de Walter Scott complètes qu'on avait dans les familles, elles sont toutes précédées d'une préface qui est très intéressante, parce que Walter Scott s'explique sur la technique de ses livres. Et dans une des préfaces de Walter Scott, il explique que finalement, parler de l'avenir ou parler du passé, c'est à peu près le même exercice. C'est-à-dire, dans les deux cas, il s'agit de reconstruire à partir d'un certain nombre d'indices, de type virtuel, littéraire en réalité, un monde que le lecteur n'a pas connu, voilà, ou ne connaît pas encore. Et donc, ça n'est pas, si vous voulez, parce que j'étais en rupture avec ce que j'avais fait précédemment, c'était pour, d'une certaine manière, utiliser un peu les mêmes outils, mais au service de quelque chose qui était plutôt de l'anticipation que du passé.
Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas spécifiquement quelque chose à aller creuser du côté du lien entre vos romans, c'est-à-dire ni quelque chose, je ne sais pas, de l'ordre d'une calme continuité, ni forcément de la rupture, ni de la rivalité entre vos propres romans.
Ben non, je suis désolé. Mais non, mais si vous voulez, en fait, Voilà, je crois que ce que vous essayez de nous faire dire, je n'ai pas de projet d'ensemble, je n'ai pas une comédie humaine ou une espèce de toile comme ça qui serait, qui dont je suivrais, dont je déroulerais les étapes. Je suis interpellé par des histoires, par des personnages que je rencontre souvent par hasard, qui finissent par m'obséder, revenir. Souvent, ils sont proposés, et à ce moment-là, souvent, ceux qu'on me propose, je les garde pas, mais d'autres que sur lesquels je tombe par hasard, comme ce personnage d'Auguste là, qui m'habite, etc. Et finalement, c'est en fait, je pense que la constante n'est pas le projet. La constante, c'est ce que je suis, c'est-à-dire c'est ce que j'en fais. C'est-à-dire que, si vous voulez, je prends à peu près n'importe quel sujet, finalement, je vais le ramener à mes centres d'intérêt, mon expérience aussi. Par exemple, sur Benioski, c'est très clair que la thématique de la rencontre des civilisations, de l'Afrique, de la colonisation avant la colonisation, c'est-à-dire sous quelle forme ces relations auraient pu se développer, etc., toutes ces thématiques, finalement, sont les miennes depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours. Et donc, finalement, je les illustre sous des formes différentes. Voilà. Mais qui procèdent en général, si vous voulez, de la rencontre avec, un sujet ou un personnage. Et si possible, c'est une rencontre presque physique. C'est-à-dire que, par exemple, pour Benioski, je me souviens très bien, quand on en a parlé à Cracovie, je me souviens très très clair de cette place de Cracovie sur laquelle il y a une tour. Depuis le Moyen-Âge, et toutes les heures, il y a un son de trompe, vous savez, qui est interrompu brutalement. C'est une mélodie qui est interrompue brutalement parce que la ville était assiégée au Moyen-Âge et la flèche des Mongols avait atteint le type qui jouait. Et pour commémorer ça, il y a cette mélodie interrompue, c'est-à-dire qui est très, très frappante. Je me souviens très, très bien d'avoir pris contact avec ce personnage là-bas, comme ça, dans ces circonstances. Dans un autre ordre d'idée, j'ai écrit un livre qui s'appelait Katiba, qui parlait du terrorisme islamiste dans le Sahel. Bon, j'étais à l'époque ambassadeur. J'ai été donc en contact quotidiennement, pratiquement, avec, par le biais d'un service de renseignement, avec le phénomène du terrorisme dans la zone. Mais c'était quelque chose qui était virtuel, qui était, pour moi, abstrait. C'est-à-dire que, comme pour la plupart d'entre nous, d'ailleurs. Et puis, un jour, assez rapidement, d'ailleurs, après mon arrivée, il y a eu un attentat dans le sud de la Mauritanie. Et il se trouve que ça se passait au moment de Noël. Il y avait personne dans le poste en Mauritanie. Moi, j'étais à Dakar, mon chiffreur était de garde. Bon, donc, on avait accès à tout le réseau régional. Et donc, on a été mis en première ligne, j'allais dire, très vite. Et il y avait 4 morts et un survivant. Et ce survivant, il se trouve que, très, très rapidement, mais on s'est rendu compte qu'il était très gravement blessé et qu'il ne pourrait pas survivre à une évacuation vers Paris. Donc, je l'ai fait venir à Dakar, à l'hôpital principal, où il a été opéré dans la nuit. Je l'ai reçu là-bas, il était 3h du matin, et cet homme était un homme, il avait 73 ans, il a pris une balle de Kalachnikov dans la cuisse, il était conscient, il a fallu que je lui apprenne que ses 4 compagnons, qui étaient pour une part entre eux, ses enfants et son frère, étaient morts. Il ne savait pas, puisqu'il avait perdu connaissance. Donc, quelque chose d'extrêmement intense, si vous voulez, et tout à coup, tous ces phénomènes que je connaissais de façon abstraite, si vous voulez, prenait un relief qui était un relief absolument humain et tragique à travers cet homme. Alors, c'est pas moi qui avais reçu la balle, bien entendu, mais d'une certaine manière, j'étais quand même touché par le phénomène. Et je me suis mis à écrire le livre après ce contact, parce que tout à coup, j'étais dans le sujet, et ça n'était plus quelque chose d'extérieur à moi.
Pourquoi est-ce qu'il fallait alors en passer nécessairement par la fiction ? Et est-ce que ça veut dire, Jean-Christophe Ruffin, que la fiction chez vous a nécessairement besoin de s'appuyer sur le réel ou sur la folie du réel ou sur un épisode concret?
Oui, parce que alors la fiction au départ, je vous dis, c'était parce que j'ai commencé avec des essais. Ça ne me satisfaisait pas. J'avais l'impression que c'était une forme littéraire à part entière. Il y a de très grands exemples d'essais, soit dans le passé, soit même de façon plus récente, qui sont de grandes pages. Donc il y a un modèle de l'essai. Mais finalement, il est quand même assez marginal. Et pour la plupart, les essais qui sont publiés aujourd'hui, les essais politiques en particulier, sont écrits un peu n'importe comment. Ça peut être écrit avec les pieds, peu importe. Du moment que les idées sont là, etc., ça ne me satisfaisait pas beaucoup. En plus, la forme de l'essai est souvent une forme assez binaire, c'est-à-dire que c'est blanc ou noir. On développe une thèse, donc on a plutôt tendance à vouloir la démontrer, à choisir tous les arguments qui vont dans le sens de ce qu'on veut dire. Bon. Or, le réel n'est pas comme ça, et l'expérience que j'ai de la vie n'est pas comme ça. C'est au contraire l'expérience de l'ambivalence, de l'ambiguïté des choses, des êtres, tout ce qu'on ne peut pas mettre, à mon sens en tout cas, je ne suis pas parvenu dans les essais. Donc, en recourant à la fiction, si vous voulez, je me suis ouvert un champ qui était un champ narratif beaucoup plus large, beaucoup plus souple, finalement, qui me permettait de parler à la fois problèmes qui pouvaient être abstraits, finalement, parce qu'au fond, par exemple, vous avez cité Checkpoint. Bon, bien entendu, la situation, les dilemmes de l'humanitaire aujourd'hui sont mis en scène dans ce livre. Mais en même temps, ça n'est pas fait de façon didactique. C'est-à-dire que si je faisais une conférence sur les problématiques de l'humanitaire, Dieu sait que j'ai participé à des conférences de ce genre, c'est pas du tout la même chose. Là, il s'agit de dire aux gens, aux lecteurs, vous allez monter dans un camion avec ces cinq personnages, vous allez monter dans le camion avec eux, et puis vous ne connaissez rien à tout ça, un peu comme eux finalement, et puis vous allez vous mettre en route. Et vous allez vous mettre en route vers une destination qui est la guerre. Et dans cette route, dans ces camions, dans ce huis clos roulant finalement, vous allez rencontrer d'abord les autres, et puis vous allez rencontrer tous ces problèmes que j'aurais pu évoquer de façon abstraite, mais là, quand vous les rencontrerez, ce sera sous forme incarnée, c'est-à-dire avec toute l'ambiguïté sous laquelle ils se présentent. Parce que les phénomènes historiques en particulier, tous les phénomènes de la guerre notamment, qui m'ont beaucoup évidemment intéressé, parce qu'au fond j'ai été rodé beaucoup autour des questions de la guerre, j'ai pris part à ces conflits et tout ça, cette question n'est jamais une question binaire comme on les explique dans les conférences. Et au fond, rien n'est pas marqué, ici c'est la guerre. On entre progressivement dans une autre réalité qu'on ne mesure pas, dont on ne mesure pas les dangers, c'est d'ailleurs un des problèmes. C'est précisément toute l'ambivalence de ces situations, et il n'y a que, à mon avis, que la fiction qui permette de les rendre.
Ça veut dire que le romancier se tromperait moins que l'essayiste ?
À ça, je pense, de toute façon, parce que c'est dans le fameux discours de Solzhenitsyn pour son prix Nobel qui raconte ça et disait... voilà, toute ma vie, on a voulu m'enseigner une science, des choses scientifiquement fondées sur le monde, et c'était des mensonges. Voilà. Et s'y se présentait comme la vérité, c'est-à-dire que dans le monde stalinien où il vivait, on lui présentait une vérité scientifique, prouvée, mais qui est en fait un mensonge, tout était faux. Et il dit, finalement, le roman se prétend être un mensonge, c'est-à-dire affirme son caractère faux, puisque c'est pas vrai, on va vous raconter, c'est pas vrai. Mais au fond du roman, s'il est juste, il y a un son qui est celui de la vérité, c'est-à-dire qui est celui de quelque chose qu'on peut croire, quoi. Et je pense qu'il y a dans l'appréciation d'un... du réel. En particulier, je reviens à cette question de la guerre, parce que la plupart d'entre nous n'a pas l'expérience de la guerre. Parce que, providentiellement, jusqu'ici, nous n'avons pas subi directement, notre génération en tout cas, la guerre. Mais quand on veut rendre cette impression, cette expérience, et qu'on le fait avec des moyens de fiction, souvent, ça paraît presque invraisemblable. Et pour Checkpoint, par exemple, j'ai eu des critiques qui disaient « c'est pas possible, ça ne passe pas comme ça », etc. Or, je pense que c'est le plus documenté de mes livres. Ça, voilà. Alors, évidemment, il y a une trame de fiction, bien sûr, mais ça se passe vraiment comme ça. Et c'est ça qu'on essaie de rendre, de restituer à travers les livres, c'est-à-dire une perception plus juste, mais qui parfois est inattendue et souvent paraît invraisemblable de la réalité.
Alors justement, on en vient vraiment à la fabrique du roman en question, puisque vous parliez de la façon dont ils étaient documentés, puis on l'a bien entendu là, Jean-Christophe Ruffin. Vous commencez par des prises de notes, par de la documentation. Ça peut être un temps très long d'ailleurs. Ça peut arriver sur certains livres que ce temps de documentation s'étale sur plusieurs années avant le passage au canevas, à la structure, puis avant le passage à l'écriture. Et le temps d'écriture est finalement un temps assez court chez vous. Alors, à la main, je ne sais pas si c'est toujours le cas, d'un jet sans rature ou presque, hein, je ne sais pas si c'est encore le cas. Et puis, après les étapes de documentation, de notes et de structure, au fond, le roman est fini, il n'y a plus qu'à l'écrire. C'est comme ça que ça se passe ?
Oui, enfin, la plupart du temps, effectivement, je travaille beaucoup sur des plans, enfin, je réfléchis à des plans, etc. Mais d'une façon générale, ça ne se voit pas, comme ça que je travaille. D'ailleurs, mes enfants sont persuadés que je ne fais rien. Voilà, c'est une forme, disons, d'errance, d'imprégnation aussi, quand il s'agit de temps lointain, etc. Donc c'est une errance dans des sources, dans des livres, etc., que je lis, voilà. Bon. Mais quand, à un moment donné, les choses viennent, ben, elles vont très très vite. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Collier Rouge, et d'ailleurs, c'est le seul que j'ai tapé sur un petit pad, parce que... Et j'avais, alors là, j'avais aucun plan. J'avais juste l'anecdote finale qui m'avait été racontée par un ami photographe de ce chien que son maître, qui était un héros de la guerre de 14, son maître avait décoré son chien, passé en Bretagne, et cet homme qui était revenu de la guerre avec cette Légion d'honneur a regardé son chien, lui a mis la Légion d'honneur et a traversé le village avec ce chien décoré. Bon, alors évidemment, il s'est fait sauter dessus par la police, etc. Bon, c'était considéré comme un outrage à la nation. Donc il m'a raconté cette petite histoire, c'est l'histoire de son grand-père. Cette histoire, je sais pas, j'aimais cette histoire parce que j'aime les chiens, mais j'aimais l'ambivalence de cette histoire. J'aimais que ce soit à la fois un héros qui en même temps rejette la guerre. Là, il y avait quelque chose, il y avait une rupture, il y avait quelque chose dedans. Et quand j'ai décidé de m'y mettre, entre le moment où j'ai commencé à écrire le livre et le moment où je l'ai terminé, il s'est passé 10 jours. C'était vraiment extrêmement intense. Mais dans les autres cas, si vous voulez, par exemple, le premier roman que j'avais écrit, L'Abyssin, j'ai écrit en 50 jours. Celui-là, j'ai écrit en un mois et demi. J'ai commencé le 15 octobre, exactement, etc. C'est-à-dire que ça va très, très vite. Mais
ça compte pour vous ? C'est curieux, vous avez l'air de savoir le nombre de jours.
Oui, ça compte. Oui. Je le mets sur le manuscrit en général. Après, je mets la date du temps au temps. Pour moi, on ne le publie pas comme ça, parce qu'après, les autres vont être jaloux et tout ça, ce n'est pas la peine. Donc, ça compte parce que d'abord, il y a une sorte de... Bon, moi, j'aime beaucoup la montagne, vous l'avez dit. Je vis en montagne maintenant. Et il y a quelque chose de l'ordre de la course en montagne, si vous voulez, de l'ascension, c'est-à-dire le temps qu'on met, la rapidité, l'effort presque physique, parce qu'écrire à la main des gros livres comme ça, c'est un effort presque physique, enfin même pas presque, vraiment physique. Donc il y a voilà, c'est de l'ordre du voyage, c'est-à-dire que voilà, je suis allé là-bas du temps au temps, voilà, comme si on revenait d'un pays différent. Et donc cette durée, j'essaie de m'en souvenir. Mais si j'ai fait ça, si j'écris aussi vite, c'est surtout parce que j'ai le sentiment, si vous voulez, que pendant ce moment, bref, mais qui est quand même assez long, parce que je veux dire un mois et demi dans une tension absolue autour d'un sujet. Tout en continuant à vivre en apparence normalement, mais je veux dire avec vraiment quelque chose qui s'élabore en vous de façon très intense, c'est évidemment fatigant et c'est surtout une sorte de grâce, un peu comme un avion qui est en l'air, si vous voulez, et qui ne doit pas se poser, qui ne doit pas s'écraser, qui ne doit pas perdre son assise dans l'air. C'est-à-dire que il y a une grâce, il y a un état de grâce qui peut se rompre à tout instant. Et plus les choses sont ramassées, moins il y a de chances qu'on s'écrase au sol. Quoi, voilà.
Alors justement, qu'est-ce qui peut empêcher cet état de grâce, ou en tout cas, qu'est-ce qui peut vous interrompre, hein, dans ce moment d'écriture ? Par exemple, sur le dernier roman, est-ce qu'il y a des endroits où vous avez pu... buté.
J'ai dû m'interrompre quelques jours pour aller au Salon du Livre d'Alger. Je l'avais promis, j'y suis allé. Bon. C'était en plein milieu. Bon, c'était passionnant, c'était très très intéressant. C'est vrai que...
Même sans vous déplacer géographiquement, je veux dire, dans le moment d'écriture lui-même.
Moi, je ne fais pas des plans très détaillés, parce que je trouve que le plan détaillé étouffe. Si je sais tout, ligne par ligne, ce qui va se passer, je n'ai pas envie d'écrire le livre, quoi, tout simplement. J'ai l'impression que c'est fait. Quoi. Puis, bon. Tandis que moi, je fais des actes. Alors, je fais en général 5 parties. Je dis, bon, ben, premier acte, il va se passer ça. Encore une fois, je suis guidé essentiellement par l'action, moi. Je ne fais pas partie de ces écrivains qui font une première phrase et puis qui partent comme ça. J'ai vraiment la notion d'action, de déplacement, d'interférence des personnages est essentielle pour moi. Je suis fondamentalement un raconteur d'histoire. Voilà.
Donc ça passe par la structure.
Donc ça passe par la structure et ça passe, voilà, mais par une structure sous forme assez lâche. Au premier acte, ils vont se rencontrer. Voilà. Au deuxième acte, ils vont se séparer. Au troisième acte, ils vont se retrouver. En gros, par exemple. Et puis après, je me fixe des contraintes fortes. Donc je me fixais des chapitres très de 12 feuillets. Et à l'intérieur, par exemple, d'un acte, je me disais, il y aura 10 chapitres. Voilà. Donc, ce que tu as à dire, tu as 10 chapitres pour le dire. Voilà. Alors, débrouille-toi. Et puis, quand j'étais sur mon premier chapitre, tu as 12 feuillets pour dire ce que tu as à dire. Voilà. Je pense, enfin, c'est la phrase de Lamennais, la liberté opprime, la loi libère, mais d'une certaine façon, c'est vrai que la loi, quand vous fixez une loi, une contrainte, moi, ça me libère profondément, parce que ça m'oblige à maîtriser le propos, à aller plus directement à ce que je veux dire, et à équilibrer mieux les éventuelles digressions, etc. Donc j'ai commencé comme ça.
Quand vous dites que vous desserrez Jean-Christophe Ruffin, vous êtes plus à l'aise, ça veut dire que vous progressez. C'est une idée qui vous intéresse, celle du progrès ou de l'amélioration, parce que comme vous parliez tout à l'heure de pas avoir de vision d'ensemble sur votre œuvre, je me demandais si vous l'aviez malgré tout.
Oui, c'était. Je ne sais pas si c'est un progrès, j'en sais rien. C'est peut-être aussi un défaut, mais je crois que je sais raconter des histoires, quoi, maintenant. Encore une fois, je porte aucun jugement et je suis incapable de porter un jugement sur l'ensemble de mon travail, ce que ça représente, est-ce que c'est une œuvre, est-ce qu'elle durera, est-ce qu'elle a un intérêt au-delà. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai envie de raconter quelque chose, j'y parviens d'une façon qui est beaucoup plus certaines, si vous voulez, j'ai plus conscience de l'instrument dont je me sers, finalement, qu'au départ, où je tâtonnais, où j'étais pas absolument certain de pouvoir parvenir à raconter ce que je voulais dire, ce que je voulais raconter. Donc, là, je sais que j'y parviens, et je sais que, pour ça que je crois que j'ai beaucoup de lecteurs, c'est parce que je prends les lecteurs et je les tiens, quoi. Je les tiens, je les emporte dans quelque chose qui va les mener jusqu'au bout du livre. Bon, après, évidemment, certains aiment, d'autres pas. Je veux dire, chacun, évidemment, est libre. Si vous voulez, je crois au travail, moi, parce que j'ai été dressé à ça par mes études, d'abord, qui sont des études très techniques, finalement, hein, même si je ne les ai pas choisies pour ça au départ. Et donc, je crois que vis-à-vis du lecteur, l'auteur doit faire un travail pour d'une certaine manière rendre plus, pas forcément plus facile, mais en tout cas pour capter, pour attacher, pour tenir le lecteur et aussi pour le conduire vers ce vers quoi on compte l'amener, c'est-à-dire ce qu'on veut dire finalement, ce qu'on veut raconter, mais aussi ce qu'on veut dire derrière ce qu'on veut raconter. Voilà. Et tout ça, j'ai l'impression de mieux y parvenir qu'avant, quoi. Voilà, oui, c'est sûr.
Avec le temps, est-ce que vous qui aimez les contraintes, est-ce que vos rituels, si vous en avez, hein, est-ce qu'ils se sont fixés ou au contraire, vous en avez de moins en moins besoin? C'est-à-dire que là aussi, vous desserrez Jean-Christophe Ruffin.
Moi, j'ai pas beaucoup de rituels, moi, à vrai dire, à part d'écrire à la main. Bon, ça, c'est pas vraiment un rituel, c'est parce que j'écris souvent le matin très tôt pour commencer la journée, et c'est vrai que là, je suis un peu au radar et tout, alors les ordinateurs, les machins, je trouve ça compliqué. Et la plume, quand ça fonctionne bien, que ça glisse, là, c'est formidable, il y a quelque chose de, voilà, ce bonheur, quoi, ça s'ouvre. Hein. Mais j'ai pas de rituel, je taille pas des crayons, je sais pas quoi, j'ai pas d'enveloppe jaune comme si maintenant, j'ai rien de particulier. Si vous voulez, ça occupe assez peu de temps de ma vie d'écrire des livres. Alors j'en écris beaucoup, heureusement que ça occupe peu de temps, parce que sinon vous auriez dû vous en taper 45 pour préparer cette. Mais j'écris finalement peu de temps, je veux dire quelques semaines par an. Et le reste du temps, les choses se font plus dans une sorte de rêverie, de voilà, déambulation, voilà, dans la vie. Et puis d'action aussi, parce qu'il y a quand même cette dimension-là. Mais j'ai pas, non, je...
C'est une légende, les feuilles à carreaux bleus, la
oui,
marge,
oui,
le stylo.
Non, c'est vrai, non, non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai remis dans cette maison.
Petit rituel.
J'ai eu l'honneur de, que j'ai remis à la demande d'un précédent président de la maison, j'ai remis le manuscrit de Rouge Brésil, qui donc est quelque part ici dans une cave à cigares bien hygrométriquement surveillée. Et ils ont gagné au change d'ailleurs, il a gagné au change parce qu'il était dans un placard dans mon chalet avec les souris qui s'apprêtaient à le bouffer. Donc voilà. Et effectivement, vous pouvez le constater vous-même, puisqu'il s'est, paraît-il, consultable, c'est sur des feuilles, en effet, des feuilles à petits carreaux perforés, voilà. Mais bon, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai l'habitude, et puis parce que je trouve que ça me correspond. Un cahier, c'est trop rigide, si vous voulez, on peut pas retrier les choses. Cahier, moi, ça me contraint trop. Des feuilles blanches, j'aime pas ça. Je trouve que la feuille à petits carreaux matérialise presque les contraintes que je me fixe en termes de temps, de longueur, etc. Parce qu'au fond, les petits carreaux, voilà. Ça...
Si on s'en tient à votre bureau, alors effectivement, vous écrivez, en tout cas depuis un certain temps, vous écrivez chez vous, à la montagne, mais il vous est arrivé aussi, j'imagine, d'écrire dans des avions, dans des hôtels.
Non,
jamais ?
Non, jamais, ça c'est impossible.
Donc c'est toujours le même lieu d'écriture ?
Oui, mais c'est parce que, c'est pas ça, c'est que si vous voulez, quand je voyage, quand je suis dans l'action, sous une forme, sous une autre, même par exemple le pèlerinage, même en allant à Compostelle, j'ai rien écrit. Parce que pour moi, l'action, j'aime ça, j'aime me plonger dans un endroit, dans une situation, je l'absorbe, je suis là, je suis dedans, si vous voulez. Et je ne vais pas tout à coup m'arrêter, prendre des notes, machin, etc. Donc, à la limite, je prends des photos, ça j'aime bien. Je fais des trucs sur Instagram, ça j'aime bien, les photos, je trouve ça sympa. Mais je prends pas de notes, voilà. Je prends pas, ou en tout cas pas au fil de l'action, etc. D'abord, ça c'est parce que j'aime être plongé vraiment dans l'action. Ça c'est la première raison quand je suis dans une situation donnée. Et la deuxième raison, c'est que je crois beaucoup au pouvoir créateur de la mémoire. C'est-à-dire que je pense que la mémoire humaine n'est pas une mémoire de machine, c'est évidemment une évidence, mais c'est une mémoire affective. Qui en fait fait un tri entre ce qui vous a touché et ce qui ne vous a pas touché. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple du pèlerinage. Si vous écrivez tout ce que vous avez sous les yeux, voilà, il est telle heure, il pleut, je marche. Voilà, je marche, je suis passé devant trois crucifix, deux camions, n'importe quoi. Vous écrivez votre truc. Bon. Mais ça ne vous a pas touché. Quand vous retrouvez ces notes, je sais pas, 6 mois plus tard, c'est mort, c'est rien. Et inversement, si quelque chose vous a touché, si quelque chose est connoté d'un affect profond, sensiblement, que ce soit favorable, un plaisir, ou au contraire une peur, ou au contraire une tristesse, etc., ça va sortir. Ça va ressortir, et ça va ressortir d'une façon qui est beaucoup plus intéressante, je trouve. Et quand je me fixe le canevas, par exemple, d'une fiction, au fond, j'ai un canevas, par exemple, voilà, il y a tel personnage qui va faire ça, mais la plupart du temps, en fait, je décale. C'est-à-dire que quand, je sais pas, moi, par exemple, quand ils arrivent en Sibérie, ça va m'évoquer autre chose, un autre type de voyage. Peut-être, je sais pas, moi, dans le Caucase, je sais pas quoi, en tout cas, chose que j'ai vécu. Et à ce moment-là, ce sont ces souvenirs-là, qui sont toujours des souvenirs très lestés, je trouve, d'affect, qui s'imposent et qui remplissent l'écriture. Alors que si j'allais chercher des notes, moi je trouve ça, souvent je trouve ça dans des livres que je lis, chers confrères, vivants ou morts, souvent je trouve que ça sent la fiche, quoi. Surtout dans les romans que vous appelez les romans historiques. Souvent, le héros passe dans un champ de coton, vous avez 4 pages sur la culture du coton, quoi. Voilà. Voilà. Il y a trop, je veux dire, la documentation est là, et elle est là parce qu'elle est une documentation. Or, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est si, de ça, de ce que vous avez vécu, documentation ou expérience, ressort quelque chose de saillant pour des raisons affectives, pour des raisons qui sont en vous.
Et inversement, d'avoir commencé à écrire, et là je parle des fictions, hein, et c'est assez tardif, hein, puisque c'est au milieu des années 90, donc d'avoir commencé à écrire, ça n'a pas changé votre manière de vivre l'action ?
Non, non, non. Non, parce que de toute façon, je crois que j'ai toujours essayé. Bon, d'abord, je ne crois pas à l'action pour elle-même, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un grand recul et peu d'illusions sur l'efficacité de l'action. Je ne suis jamais, ben, j'ai pas fait de l'humanitaire pour sauver le monde. Je ne suis pas devenu ambassadeur pour révolutionner la diplomatie. J'ai toujours eu conscience que dans l'action, on n'a qu'une toute petite marge d'action en réalité, vraiment. En revanche, on a une énorme marge d'observation. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours porté à me précipiter un peu dans tout ce qui m'était proposé ou offert, etc., c'est pas du tout des considérations de carrière, ni même un idéalisme particulièrement marqué en pensant que j'allais, encore une fois, révolutionner les choses. Mais c'est l'idée qu'en allant là, j'allais voir beaucoup de choses et comprendre des choses. Parce que fréquenter, par exemple, ce qu'on appelle les allées du pouvoir, etc., c'est... Au fond, c'est d'une vanité totale, mais c'est extrêmement intéressant quand on écrit des romans. C'est extrêmement intéressant parce que lorsqu'ensuite on tombe, et on tombe forcément très vite, enfin dans le type de livre que j'écris en tout cas, sur la description justement du pouvoir, et qu'on l'a approché, et qu'on l'a observé de près, eh bien, forcément, c'est très, très nourri. Et si vous voulez, l'ambassadeur, par exemple, j'ai fait ça pendant 3 ans, un ambassadeur n'a pratiquement pas de pouvoir, ou très, très peu. Mais il est en contact avec au moins 2 pouvoirs, c'est-à-dire celui qu'il représente et celui auprès duquel il est en résidence. Il se trouve que dans le pays où j'étais, au Sénégal, la France a un tel poids que j'avais un accès extrêmement direct au mécanisme du pouvoir, que ce soit là-bas ou ici. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Et je crois que profondément, au fond de moi, je suis allé là-bas pour ça. C'est-à-dire que... ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas fait le métier qui m'était demandé le mieux possible. Mais je l'ai fait sans illusion sur l'efficacité de ce que je pourrais faire. D'ailleurs, dès mon départ, enfin, ça a tout de suite été... enfin, tout ça a été balayé. Enfin, je veux dire, c'est pas... il n'y a pas de pérennité dans l'action. En revanche, je ne regrette pas du tout d'être allé voir, parce que alors ça c'est une mine d'or. C'est une mine d'or.
Par rapport à ce que vous disiez, Jean-Christophe Ruffin, inversement, écrire, au fond, ça serait avoir un pouvoir absolu, j'imagine, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, mais pas de responsabilité. Ah, ou malgré tout une...
Si, mais je pense qu'on a... J'étais assez choqué au moment du procès, par exemple, qui avait été fait à Houellebecq quand il avait tenu des propos sur l'islam, etc. Il y avait, à un moment donné, dans des débats, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre avait dit « l'écrivain n'a pas de responsabilité ». Et ça, j'y crois pas du tout. Je crois qu'on a, vraiment une responsabilité très forte. En tout cas, on est comptable, responsable de ce qu'on écrit, quoi, de l'effet que ça peut avoir, des conséquences que ça peut avoir. Là, c'est plutôt le médecin qui parle, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de mal, on peut faire du bien aussi peut-être, hein, j'espère, mais on peut faire beaucoup de mal. On peut aussi faire prendre conscience de certaines choses. Par exemple, bon, sur l'humanitaire, le checkpoint, c'était fait un peu pour ça, pour clore une époque. Qui était celle dans laquelle on a créé ces ONG pour montrer qu'on était arrivé à autre chose et que le moment de bascule c'était probablement cette période de la Bosnie qu'on n'avait pas compris comme ça à l'époque. Bon. Donc non, il y a une responsabilité très forte même. Mais pour autant, est-ce que c'est un pouvoir? J'en suis pas sûr. En tout cas, moi je le vois pas comme ça. On a un pouvoir sur ce qu'on écrit, on a une maîtrise de ce qu'on choisit de dire, d'écrire, etc. Mais c'est pas, si vous voulez, j'ai pas l'impression de m'emparer une conscience, j'ai pas une ambition de gourou, je me dis pas, si vous voulez, qu'on que là, je suis dans un domaine où la toute-puissance peut s'exercer, etc. Non, pas du tout. Je reste soumis à de fortes contraintes et ne serait-ce que par le respect du lecteur et par sa présence tout le temps quand j'écris, j'ai tout le temps conscience que je vais être lu, que je vais être lu par beaucoup de monde. Et ça, si vous voulez, c'est un remède au fantasme de toute-puissance quand même.
À propos du lecteur, justement, Jean-Christophe Ruffin, il n'est pas rare, voire presque systématique, que les romans chez vous soient suivis d'une postface. Autre exercice d'écriture et autre adresse au lecteur, hein, j'imagine. C'est encore le cas pour le dernier, hein, pour le tour du monde du roi Zibeline. Qu'est-ce qui rend cette postface nécessaire chez vous? Qui en a besoin? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le lecteur?
En fait, au début, la première fois que j'ai fait ça, c'était à la suite d'un petit incident. Quand j'avais publié un livre qui s'appelait « Asmarol et cause perdue », une chercheuse m'a téléphoné en me disant « je m'appelle Madame Intel, bon, peu importe ». Voilà, elle m'a dit « vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez très bien ma thèse ». Alors, je me suis un peu inquiété, quand même, et je l'ai fait un peu parler, et elle m'a expliqué qu'elle avait fait une thèse sur les ensablés, les Insabiati, les Italiens qui étaient venus pendant la guerre d'Éthiopie, et qui vivaient là-bas, qui étaient des vieux messieurs, qui étaient des personnages de mon livre. Et alors, c'était très étonnant parce que, on était en pleine, c'était totalement kafkaïen, puisque, en fait, ces Italiens noirs, ces Insabiati, ces ensablés, moi, je les avais connus là-bas. J'avais pas écrit sur Cléopâtre, hein, les ensablés, j'ai pris des cafés tous les matins avec eux à Asmara, dans ces cafés, qui étaient en effet des cafés italiens, tout à fait italiens, où ils venaient boire des jus d'orange et des petits expressos avec leurs petits costumes trois pièces, tout est limé, etc. Je les voyais tous les matins. Et elle aussi. Et simplement, elle avait fait une thèse sur eux. Et donc, elle considérait que ces personnages étaient à elle, d'une certaine façon, et que je n'avais pu les mentionner qu'en prenant ça dans sa thèse, qui avait été publié de façon très, très confidentielle, à compte d'auteur, etc., et que j'avais pas lu. Donc, je comprenais en même temps sa démarche, mais en même temps, j'essayais de lui expliquer que que c'était un pays que je connaissais bien, que ces gens-là, je les avais vus, etc. Donc, on était dans quelque chose d'un peu fou, et je lui ai dit, alors, passe les détails donc, je comprenais pas ce qu'elle voulait, elle non plus d'ailleurs, enfin bref. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est très simple. Quand le livre paraîtra en poche, je ferai une postface dans laquelle je citerai toutes les sources, y compris la vôtre, que pourtant j'ai pas lu, mais ça vous fait plaisir et très bien. Je prenais un gros risque d'ailleurs, parce que c'était une manière finalement de lui rendre mal, mais pour après tout, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ce paradoxe, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, parce que je peux comprendre en même temps leur position, que quand vous utilisez pour faire un roman des sources qui sont des sources historiques, etc., ben, il n'est pas d'usage dans un roman, contrairement aux essais, de faire une note de bas de page en disant « ça vient de tel livre, de tel livre ». Et donc, la formule de la postface était une manière, finalement, de rendre hommage à ceux qui avaient pu, à un moment donné... Parce que alors là, pour le coup, dans d'autres livres, si vous voulez, par exemple, en Rouge Brésil, j'ai rendu hommage... Et c'est tout à fait nécessaire, mérité, à un historien qui s'appelle Franck Lestringant, qui avait beaucoup travaillé sur la controverse théologique au Nouveau Monde, sur les Indiens, etc. Bon, donc j'ai fait ça. Et au lieu de le faire de façon un peu sèche, je l'ai fait un peu à la manière de Walter Scott, mais sans prétendre l'égaler, en mettant ça un peu en scène, c'est-à-dire en montrant, voilà, c'est pas j'ai lu telle et telle et telle et telle chose, mais en essayant d'expliquer comment c'était venu, pourquoi, etc. Puis s'ajoute à ça le fait, je vais pas m'étendre là-dessus, que tous les journalistes ne lisent pas forcément très attentivement les livres, si vous voulez. Et qu'en lisant la postface, finalement, vous pouvez permettre à certains d'avoir quand même l'essentiel. Oui.
Comme c'est aimable à vous. Vous avez parlé, Jean-Christophe Ruffin, à l'instant du lecteur auquel vous pensez. Enfin, en tout cas, vous pensez toujours que vous allez être lu au moment de l'écriture. Qu'est-ce que ça implique que d'écrire avec le lecteur, ou en tout cas pour le lecteur, au moment même de l'écriture?
Écoutez, c'est un peu comme le médecin, là, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la médecine, vous la prenez, et puis après, vous la pratiquez. Et la pratiquer, ça veut dire que vous vous adressez à quelqu'un. Parce que vos médecins, ils ne récitent pas tout seul dans sa chambre des tableaux cliniques. Je veux dire, il est face à quelqu'un. Qui d'ailleurs, en général, n'entre pas dans les tableaux cliniques. Parce qu'il est très rare que ce qu'on a appris, on le retrouve directement. Enfin bon. Donc, pour le lecteur, c'est pareil. C'est-à-dire que à partir du moment où vous écrivez pour quelqu'un ou avec quelqu'un, je dirais plutôt, parce que c'est pas pour quelqu'un au sens où, comme je connais pas les lecteurs, je n'écris pas nommément pour quelqu'un, mais j'écris avec quelqu'un, avec l'idée. Ça suppose déjà que vous ne pouvez pas utiliser les facilités que vous pouvez utiliser quand vous parlez à vous-même. Où finalement, il y a des tas de choses que pas besoin d'expliquer, puisqu'on voilà, on les connaît, etc. Non, là, il faut bien se mettre à la place de celui qui va vous lire. Et de comprendre la perception qu'il peut avoir de ce que vous avez écrit. Donc ça, c'est quand même une manière d'ouvrir la boîte. Puis il y a une autre chose, c'est que moi je trouve que le mainstream, enfin le fait d'écrire pour un grand nombre, c'est quelque chose de respectable. Voilà. Alors ça aussi, c'est une transgression sans doute, peut-être parce que tout le monde n'a pas ça. Il y a quand même beaucoup l'idée que quand on est très lu, etc., il y a un peu, c'est un peu un malentendu, que c'est un peu, en France en tout cas, si vous voulez, le mainstream est un peu mal vu, quoi. Voilà. C'est... Or moi, je crois que on peut être exigeant, on peut essayer de voilà, d'écrire le mieux possible et d'exprimer les choses le plus profondément possible, mais en les rendant accessibles à un grand nombre. Voilà, je n'ai pas la coquetterie de me dire que moins je suis lu, meilleur c'est ou autre. Je pense que non, il y a. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'être très lu veut dire que c'est très bon. Enfin, c'est pas aussi simple. Mais je trouve que c'est un défi considérable de pouvoir être lu par beaucoup en essayant de conserver cette qualité. Voilà, une qualité en tout cas.
Merci beaucoup. Merci.
C'était la masterclass de Jean-Christophe Ruffin avec Manu Farine. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.